À voix nue. Emmanuel Laurentin s'entretient avec Jacques Le Goff et Jean-Pierre Vernant. Aujourd'hui, quatrième volet, tragédie, liturgie.
Jacques Le Goff, Jean-Pierre Vernant, nous nous retrouvons pour la quatrième fois cette semaine pour un autre thème que vous avez souhaité voir aborder par curiosité, pourrait-on dire, Jacques Le Goff, abordé par Jean-Pierre Vernant. Rappelons que vous êtes de la même génération intellectuelle, que vous êtes historiens tous les deux, même si Jean-Pierre Vernant est philosophe et historien à la fois, et que vous avez donc cheminé de concert pendant 50 ans depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, et que vous vous retrouvez ici pour débattre de votre discipline, mais débattre également des thèmes que vous avez abordés l'un et l'autre. Et vous m'avez dit, en préparant cette émission, Jacques Le Goff, j'aimerais bien parler à Jean-Pierre Vernant de la question du théâtre et de la tragédie, qu'il a évidemment beaucoup abordé dans son œuvre, parce que ça me pose problème en tant qu'historien du Moyen-Âge, la marginalisation du théâtre dans la société médiévale m'interroge.
Oui, Jean-Pierre Vernant, certainement, ne me démentira pas. Son œuvre y est en partie consacrée, et c'est une idée, notion banale que tout le monde a, c'est l'importance centrale du théâtre dans la société grecque antique. Or, parmi les grandes institutions, si je peux dire, du monde antique, une de celles qui disparaît au Moyen-Âge, c'est le théâtre. Le christianisme voit dans le théâtre un lieu de plaisir qui est proche de la luxure. Peut-être aussi que certaines pratiques du cirque et des amphithéâtres, où un certain nombre de chrétiens ont été martyrisés, a aussi contribué à cette élimination du théâtre. Et moi, j'ai donc affaire à une société, à une civilisation sans théâtre, où le théâtre ne renaît que tardivement, à la fin du XIIIe siècle, et dans des conditions, me semble-t-il, tout à fait différentes. S'il y a un type de représentation théâtrale qui connaît un assez grand succès à la fin du Moyen-Âge, ce sont les passions, qui sont d'ailleurs intéressantes, représentations essentiellement religieuses, retraçant le grand événement de l'humanité, la passion du Christ, et qui se donnait en général à l'extérieur, devant la façade des églises et des cathédrales. Je dirais presque à la limite, on peut parler du Moyen-Âge sans parler de théâtre. Et évidemment, là, la différence est énorme avec l'Antiquité. Et bien que je l'ai lu, je crois que ça intéresserait les auditeurs, et j'aimerais moi-même entendre Jean-Pierre Vernant nous dire en quoi le théâtre était essentiel, plus particulièrement la tragédie.
La tragédie et le théâtre, pour moi, c'est une invention de la Grèce. C'est une invention. C'est une invention à tous égards, c'est une invention au point de vue institutionnel. On sait à peu près à quel moment c'est créé officiellement. C'est les Pisistratides qui créent ça. Les raisons pour lesquelles ils créent ces représentations théâtrales, on peut en discuter. En tout cas, il y a une innovation, c'est-à-dire que de façon régulière, à certaines fêtes, les grandes fêtes urbaines de Dionysos, il y a un concours théâtral. Et ce concours, il est organisé par la cité. Et il est organisé par la cité sur le mode des institutions civiques. Je veux dire que il va y avoir des concours entre des tragédiens. Chaque fois, au cours de la fête, il y a des tragédiens qui doivent fournir trois tragédies, trois pièces, et en plus un drame satirique, et ils vont concourir. C'est la cité qui prend ça en main, qui l'organise et qui confie, sous forme d'une liturgie, comme ils le font ailleurs, le soin de choisir un auteur avec ses trois pièces, de choisir une troupe de citoyens, de jeunes citoyens, pas de femmes, précisément parce qu'elles ne font pas partie de la cité. Elles font partie de la cité, mais pas sur un plan politique. Alors, uniquement des garçons, et quelqu'un qui va mettre de l'argent, c'est une liturgie qui va en quelque sorte miser sur un auteur et sur des pièces. Et ensuite, il y a un jugement. Il y a un jugement comme un tribunal. On a élu, comme on élit des juges, ou on tire au sort des juges dans les différentes tribus pour les affaires criminelles ou civiles, on crée un tribunal qui va décerner le prix de la tragédie. On est donc dans un contexte qui est celui de la vie publique officielle de la cité. Premier point. Deuxième point, il va y avoir un espace qui sera réservé à ça.
À dédié.
Ben oui, bien sûr. Il y a une histoire de ce théâtre, je laisse tomber ça. Il y a un aspect qui est un aspect religieux, il s'agit des fêtes de Dionysos. Il y a devant, à l'endroit où il y a les gradins, un fauteuil qui est réservé aux prêtres de Dionysos. Il y a une statue de Dionysos qu'on balade avant et après. Le caractère civique, parce qu'il y a les orphelins de guerre qui ont une cérémonie. Et ensuite, il y a le spectacle. Donc, nouveauté institutionnelle. Et nouveauté sur le plan des formes esthétiques. Il y avait avant quoi ? Il y avait avant la poésie lyrique ou l'épopée, que les gens chantaient devant un public. Il y a un banquet où il y a une grande fête privée au public, et il y a toujours un naède qui vient et qui chante quoi ? Qui chante les légendes que tout le monde connaît. Mais il les chante sous la forme de ce qu'on appelle le style indirect. Alors Achille se lève et dit à Agamemnon, tu es le dernier des couards, etc. Indirect. Tandis que là, dans cet espace que la cité a créé, qu'elle a organisé, et avec quel soin, puisqu'il viendra un moment où ce qui caractérise, où on est sûr qu'on a affaire à une cité hellénistique ou romaine, il y a un théâtre, comme il y a un gymnase. Et sur ce théâtre, on va jouer ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire ces mythes que la poésie lyrique ou épique a déjà développés, que tous les enfants ont appris par cœur. Seulement, le fait nouveau et stupéfiant, c'est que cette fois, il n'y a pas un monsieur qui raconte une histoire. On voit l'histoire. C'est Agamemnon en personne qui est là.
Et c'est le masque aussi.
En plus, il porte des masques qui désignent le personnage, le roi, la reine, le jeune homme, le vieillard, etc. Donc, il y a un aspect de visualisation directe de ce qui est faux. Puisque le personnage qu'on voit, on sait bien que c'est pas lui. Et que par conséquent, la création de ce type de spectacle implique une prise de conscience et un jeu savant sur le rapport entre l'illusion et la vérité, le faux semblant, l'art en tant qu'il est du fictif. Et ensuite, il y a un troisième élément d'innovation formidable. C'est que les thèmes qui sont retenus dans les grands tragiques, ce sont des thèmes macabres de mort, d'assassinat, bien pire, d'inceste, de parricide, de matricide, de vengeance. Et que, par conséquent, le problème qui est posé par derrière, ça commence à être la responsabilité. Qu'est-ce que c'est qu'être coupable ? Comment quelqu'un comme Édipe peut être à la fois plus que coupable, exclu de l'humanité parce qu'il a fait les souillures les plus terribles, coucher avec sa mère, tuer son père, c'est terrible, on ne peut pas s'en sortir. Il est donc plus que coupable, il est la souillure de la ville, il faut le chasser. Et en même temps, il est innocent, il n'a rien fait.
Et en même temps, ça veut dire que, c'est ce que vous montrez, Jean-Pierre Vernant, que ce qui se dit dans cette tragédie résout, ou du moins est une sorte, peut-être pas de miroir, mais de miroir déformé ou déformant, de ce qui se fait dans la société de la police athénienne au moment où ça se joue.
Parce qu'au moment où le théâtre est créé, ce qui est créé en même temps, ce sont les tribunaux du sang. Auparavant, quand il y avait un meurtre, alors c'était la vendetta, c'était la souillure, il fallait faire payer le meurtre. Vient un moment où, avec le politique, on crée des tribunaux, et ces tribunaux sont différents suivant que le meurtre est dit délibéré, les codes, ou c'est pas involontaire, c'est ça, on n'a pas tellement voulu, ou au contraire accidentel, ou même il y a des tribunaux qui jugent les meurtres justifiés. Par exemple, les meurtres quand au cours d'un exercice militaire ou une bataille, vous tuez quelqu'un qui est à côté de vous en essayant de lui sauver la vie. Il est justifié. Donc, degré de culpabilité, distinction des différents types de meurtres, et par conséquent, ce qu'on donne à voir aux citoyens, c'est le problème, quel est le rapport de l'agent, du sujet humain et des actes qu'il produit. Et de montrer que, les hellénistes ont bien montré que, il n'y a pas de pièce où à un moment donné, on aperçoive le héros qui dise « Que faire ? Que faire ? Est-ce que je vais faire ça ou est-ce que je vais faire ça ?» Et il délibère. Et puis il choisit. Et en général, il croit choisir le bien et il choisit quelque chose qui le détruit complètement. C'est-à-dire à la fois le moment où le problème de l'agent, du sujet-agent, de l'action et de ses rapports à celui qui l'a commis se pose, et en même temps, le sentiment d'une ambiguïté que l'homme n'est pas réellement agent. Il fait quelque chose et son action lui revient dans la figure, il s'aperçoit que ce qu'il a fait est le contraire de ce qu'il croyait faire. En ce sens, Édipe est le héros tragique par excellence.
Jacques Le Goff.
À t'écouter, on comprend parfaitement pourquoi le Moyen-Âge a balayé pendant longtemps le théâtre. D'abord, il n'y a plus de cité.
Bien sûr.
Il n'y a plus de cité, mais il n'y a plus dans ce remaniement qui est probablement dans notre civilisation un des événements les plus profonds, les plus spectaculaires d'ailleurs, qui est la modification profonde de la structure des villes. Ce qui était essentiel dans la ville antique, qu'il s'agisse du théâtre, du cirque, de l'agora, des thermes, des champs de Mars.
Bien sûr, ça existe. Ah oui.
Et le théâtre, en tant qu'espace spécial, à l'intérieur de la cité, disparaît. Ensuite, le christianisme pourchasse prioritairement, si j'ose dire, le faux.
Celui qui imite.
Le faux, c'est la vérité. Et ce type de faux qui est assimilé au mensonge. Le théâtre serait, si j'ose dire, un mensonge. On oublie trop souvent, c'est un peu la faute des médiévistes d'ailleurs, que le traité de Saint-Augustin, qui a été le plus copié, ou en tout cas un des plus copiés, donc diffusé, au Moyen-Âge, c'est son traité sur le mensonge, qui ne compte pas parmi ses traités les plus importants, et qui, en fait, nous révèle la façon dont le mensonge était traqué. Dans ce même ordre d'esprit, nous avons, en revanche, des textes nombreux et précis sur la détestation des masques. J'ai parlé dans le précédent entretien, je crois, de l'importance du texte de la Genèse sur l'homme créé à l'image de Dieu. Masquer cette image sous des images souvent monstrueuses, parfois animales, c'est un péché extraordinaire. D'autre part, Jean-Pierre Vernon souligne combien la notion de culpabilité est centrale dans la tragédie grecque ancienne. Il n'y a plus véritablement de coupable dans la société médiévale. L'homme est pécheur. Et le pécheur, celui qui commet un péché, c'est un coupable d'une nature particulière. Et ce n'est pas la société humaine, terrestre, de le juger, de décider ce qui arrivera de lui. C'est Dieu qui le juge. C'est Dieu qui sait si il ira en enfer ou en paradis. Par conséquent, pas besoin de la tragédie, pas besoin du théâtre. Et quel mauvais chrétien ce serait que celui qui se demanderait que faire. Alors, comme il m'a semblé quand même très étonnant que dans une société qui appartient à l'ère indo-européenne, européenne, une activité aussi fondamentale que l'avait créée la cité grecque comme le théâtre est entièrement disparue, n'est pas laissée des besoins qui appelaient un substitut au théâtre s'il n'y avait plus de théâtre. J'en suis venu à penser qu'il y a eu au Moyen-Âge une activité qui a joué le rôle du théâtre. Et je pense que cette activité, c'est la liturgie. Les cérémonies chrétiennes, et ceci bien entendu, avec beaucoup moins de faste, avec beaucoup moins de personnages, se fait aussi dans les églises de campagne, comme dans les grandes cathédrales, les grandes basiliques urbaines. C'est que les offices essentiels de la religion chrétienne, et pour commencer, la messe, se font sous forme de cérémonie, avec des personnages, avec des actions qui sont les actions liturgiques. Et ça, j'ai mis du temps, mais depuis maintenant assez longtemps, je me suis aperçu qu'un élément essentiel de la civilisation médiévale, c'est la liturgie. La liturgie, qui d'ailleurs a suscité de remarquables spécialistes. Personnellement, je dois beaucoup à cet égard à un père dominicain de mes amis, le père J, et je vois avec grand intérêt les travaux d'un jeune collègue, Éric Palazzo, qui montre très bien le rôle fondamental de la liturgie, mais je pense que ce rôle déborde le caractère proprement religieux. D'ailleurs, si nous avons l'occasion d'en parler, je voudrais rappeler que le terme et par conséquent le concept de religion n'existe pas au Moyen-Âge, que c'est un terme qui a été inventé au XVIIIe siècle, que tout était religieux et que par conséquent la liturgie se trouve au centre de la vie sociale, d'une certaine façon, comme le théâtre se trouvait au centre de la vie sociale. Y compris si on regardait de près le rôle des sexes, qui est certainement extrêmement intéressant et très éclairant.
Jean-Pierre Vernant ?
Oui, je pense que le rapprochement vaut la peine. Pourquoi ? Parce que un aspect du théâtre, de la tragédie, c'est l'ambiguïté de l'homme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, on n'en sait rien, c'est problématique. C'est la problématisation de des actions humaines. On voit des gens qui sont des gens bien. Les personnages, Aristote nous explique ça, c'est pas des types mauvais, grands personnages. Ils pensent faire le bien, et ils sont détruits par leur action même. Et le résultat, c'est, mais alors, qu'est-ce que l'homme ? Et l'homme, c'est un problème. Il n'y a pas de réponse. Et par conséquent, mettre en scène sous l'autorité de l'État, devant tous les citoyens réunis, un spectacle qui est, comme le dit Aristote, quand on voit ça, les sentiments qu'on prend en pleine tête, c'est la terreur et la pitié. Et la pitié, parce que ce qui leur arrive peut m'arriver à moi et à tous les autres. Ce sont des hommes d'un haut rang qui ne sont pas méchants, qui sont comme nous.
Jacques Le Goff.
Oui, d'ailleurs, je n'ai pas tellement de mérite à avoir reconnu que la liturgie est probablement ce qui a remplacé le théâtre antique, parce que tout le monde sait que c'est dans les offices des églises qu'il y a eu un certain retour du théâtre. Il y a eu un autre retour qui, je crois, n'est pas très significatif. C'est que, dans le cadre de ce qu'on appelle la renaissance du XIIe siècle, c'est-à-dire la recrudescence d'intérêt pour les œuvres de l'Antiquité gréco-romaine, on a représenté dans les couvents des pièces antiques. Mais ces pièces étaient essentiellement latines, l'Occident médiéval ignore le grec, et c'était surtout des comédies. De plus, c'était un public très particulier et très fermé, celui du monastère. Mais à côté de ça, la liturgie s'est développée véritablement en représentation. Et ces représentations se sont appuyées sur un nouveau calendrier, avec une période privilégiée, spécialement mise en exergue, qui est la période pascale. Sans compter que, mais ça, c'est un autre aspect, je crois, assez proprement médiéval, qui a été la parodie. Et ce sont les fêtes des fous qui se sont développées comme une... Évidemment, les historiens ont rapproché ces fêtes des fous des Saturnales antiques. Je crois que c'est assez différent. C'est une forme très intéressante, à mon avis, une sorte d'autocritique de la société médiévale. Mais c'est la liturgie, je crois, qui a joué essentiellement ce rôle, jusqu'à ce que une nouvelle cité, une cité médiévale ayant acquis ses institutions, sa personnalité, ses gouvernants, face de cette ville du haut Moyen-Âge, qui n'était guère dominée que par l'Église, et là où il y en avait un, par l'évêque, redevienne un nouveau type
et là,
de
vous,
cité.
Vous pensez aux cités italiennes ou flamandes?
Oui, et puis je pense surtout, en ce qui concerne le théâtre, à Arras. Arras, cité du patriciat, est devenue la ville où est renaît le théâtre sur un nouveau lieu, qui est la place publique. La place publique s'est offerte à la renaissance du théâtre.
Jean-Pierre Vernant, Jacques Le Goff, merci.
C'était À Voix Nue. Emmanuel Laurentin s'entretenait avec Jacques Le Goff et Jean-Pierre Vernant. Équipe de réalisation, Jean-Marie Charon, Pierrette Perronneau. Demain, le temps des retours.